Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes en direct de l'émission Elles en parlent encore, émission de Vie Féminine Bruxelles. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que on va vous parler de la semaine d'études de Vie Féminine. On va vous présenter des capsules sonores où vous pourrez entendre les impressions des participantes. Et puis, on va aussi vous passer de larges extraits des intervenants. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct avec Alexandra.
Bonjour.
Avec Mélissa.
Bonjour.
Et même avec Tamara qui en même temps assure la technique. Merci à elle. Alors, la semaine d'études de Vie Féminine, Alexandra, ça représente quoi pour toi ?
Eh bien moi, j'ai découvert en 2008 la semaine d'études de Vie Féminine et ça a été l'occasion de mieux connaître le mouvement. J'ai trouvé que... Il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était assez vaste. C'était en même temps les rencontres, en même temps les thèmes abordés. Donc c'est un tout. C'est l'occasion de mieux connaître le mouvement.
Alors toi, Mélissa, l'année passée, tu n'étais pas là.
Je n'étais pas là, donc je ne connais pas.
Mais cette année-ci, tu es avec nous.
Oui.
Voilà.
Je vais découvrir.
Alors, la semaine d'études de Vie Féminine, pour vous, ça doit vous paraître un peu abstrait. C'est quoi ? Eh bien, c'est 3 journées, toujours le 1er, le 2 et le 3 juillet. C'est des rencontres avec toutes les femmes de Vie Féminine au niveau de la communauté française. C'est 200-300 femmes qui se réunissent à l'abbaye de Fleurèves. C'est une ambiance dynamique, ludique. Et l'année passée, on a essayé d'amener une nouvelle façon de réfléchir ensemble, toujours avec des moments de plénière, avec des intervenants en grand groupe, avec des petits ateliers passage à témoins ou des femmes souvent de terrain venaient passer leur savoir, parfois plus des ateliers clés de lecture avec des grilles d'analyse. Et l'année dernière, le thème c'était en avant tout. On a décodé ensemble le capitalisme, le racisme, le sexisme, tout vraiment comme repère le féminisme. Voilà. Alors, je vous propose déjà d'écouter une première capsule d'ambiance. C'est Agnès qui nous parle.
Alors, ce ne sera pas Agnès, sera Cantaloba pour commencer.
Ah oui,
un
d'accord.
Un peu de musique pour diversifier nos interventions de parole. Et surtout, eh bien, nous allons écouter plusieurs fois Cantaloba qui était présente à la semaine d'études l'année dernière pour inaugurer la semaine d'études par des chants et des belles chansons qu'on écoute de suite.
Thank you. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous appelez comment?
Je m'appelle Agnès Abimana. Je suis arrivée à Floref via mon travail. Je travaille comme formatrice chez Lire et Écrire, mais je suis détachée à la Maison Mosaïque de Laeken. C'est la Maison Mosaïque de Laeken qui m'a invitée, quoi. Donc je suis venue à la semaine d'études à Floref de vue féminine. J'ai été invitée déjà à la même semaine d'études il y a déjà 3 ans de cela, mais je n'avais jamais eu l'occasion de venir à cause de mon horaire, parce que j'ai travaillé en même temps. Et donc, je n'avais pas de motivation, mais quand je suis arrivée sur place, je peux vous dire que j'ai été épatée. On n'a pas passé le temps à papoter ou à parler pour parler, mais on a vraiment travaillé. Il y avait des ateliers, et de ces ateliers, les femmes ont vraiment eu l'occasion de s'exprimer et de parler de, que ce soit de la politique, que ce soit du mouvement même de la vie féminine. Et c'est tout ça qui m'a épatée. Parce que quand je vais chez Vie Féminine, j'y vais en tant que formatrice et je reste dans la pédagogie et jamais dans la politique. Dans l'espace projet où j'étais, on a travaillé sur la santé. Au départ, c'était la santé. Et donc, pour finir, on a rebondi à autre chose auquel je ne m'y attendais même pas.
Ah, c'était quoi?
On est parti de la santé. Et de là, je crois que c'était quelque chose juste pour introduire. Et on a parlé vraiment de la politique en soi, de l'injustice vis-à-vis des femmes, du travail que font les femmes par rapport aux hommes, ou des projets qui ont eu lieu face à cette injustice ou qui vont avoir lieu.
Donc là, au niveau individuel, au niveau collectif, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Je dirais que j'ai un autre regard vis-à-vis de vie féminine. Et surtout par rapport aux femmes à qui je donne cours, je crois que j'aurai le recul et je verrai les choses autrement que je les vois d'habitude.
Et qu'est-ce que vous avez aussi envie de dire aux autres femmes qui n'ont pas participé dans cette journée?
Je dirais aux autres femmes qui n'ont pas eu l'occasion de venir, en tout cas de faire tout pour participer l'année prochaine. Parce qu'il semble que c'est chaque fois le début du mois de juillet. Franchement, c'est une occasion à ne pas rater, parce qu'on découvre ce qu'est la femme, on découvre tous les problèmes que la femme peut... on découvre les problèmes des femmes. Une femme qui travaille, une femme qui est mère au foyer, une femme qui fait 1000 choses à la fois, une femme qui est utilisée, une femme qui vit de l'injustice au quotidien.
Oui, alors vous avez entendu une petite capsule réalisée par Virginie. Et puis maintenant, on va continuer à découvrir la semaine d'études de l'année passée, donc avec comme thème En avant toutes, en écoutant Claudine Drion, qui est députée écolo. Et Claudine Drion va nous éclairer en faisant le lien entre féminisme, capitalisme, sexisme, qui sont des thèmes souvent abordés à Vie Féminine, et en pouvant faire le lien avec l'écologie.
Donc, on vient de suivre votre intervention sur cet atelier de cet après-midi sur...
Féminisme et écologie politique. Mais je pense qu'il y a dans le féminisme et l'écologie politique des choses très proches dans la manière de penser, de regarder les choses. Je pense notamment à l'importance de la science. Le féminisme est né, bien sûr, du militantisme, mais aussi... de la connaissance scientifique de, par exemple, la reproduction humaine, de savoir comment la reproduction se faisait. Ça a permis d'accéder à la contraception et aux droits sexuels et reproductifs. C'est sûrement quelque chose d'important. Et aussi de mettre en évidence que les rôles des hommes et des femmes ne sont pas naturels, que le sexe est biologiquement défini, bien sûr, mais on sait que le reste est construit. Et donc, avec une approche scientifique, on peut montrer qu'il n'y a pas de déterminisme, que chacun, chacune est libre. De la même manière, pour l'écologie, les sciences naturelles ont permis de penser les choses en système, de voir que les êtres humains étaient interdépendants de la nature et de comprendre que nous ne pouvions pas faire tout ce qu'on voulait sans limite, mais qu'il fallait apprendre à respecter l'environnement si l'on voulait que les générations futures puissent survivre sur Terre. Donc la science est très importante. Une autre chose qui est très importante, c'est la critique de la domination. Pour le féminisme, critiquer toutes les formes inégales de pouvoir est très importante. L'inégale répartition des ressources, l'inégal accès au savoir, l'inégale présence des femmes et des hommes en politique. Et pour les écologistes, pour l'écologie politique aussi, la question des inégalités est importante. D'une part, en mettant en évidence que la planète est une seule entité solidaire et donc que la solidarité entre les pays du Nord et du Sud est importante, que la solidarité avec les générations futures est importante aussi. Voilà deux aspects qui me semblent aller dans le même sens, qui sont parallèles. Une troisième chose, c'est l'approfondissement de la démocratie. Pour les féministes, faire en sorte que les femmes participent pleinement à la société est essentiel. Ça a été la lutte pour le droit de vote et puis pour la parité. Et pour l'écologie politique, ce qui est important, c'est qu'il y ait une démocratie participative où tout le monde, au-delà du droit de vote, en plus du droit de vote, que tout le monde puisse participer, critiquer, faire des propositions, et y compris la citoyenneté des personnes migrantes, de voir la planète comme remplie de citoyens et de citoyennes du monde et pas seulement des nationalités qui sont beaucoup plus dangereuses, qui est un concept beaucoup plus dangereux. Voilà trois aspects qui me semblent importants. Et ce sont deux courants, le féminisme et l'écologie politique, qui ont fait aussi l'objet de grands mouvements sociaux dans les années 70 et qui ont abouti petit à petit à des changements politiques importants, avec des droits pour les femmes, des droits égaux à ceux des hommes, et pour l'écologie politique, la prise en compte du développement durable. Mais bien sûr, les papiers existent, les textes de loi existent, mais dans la réalisation de terrain, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Alors, on va réécouter tout de suite la suite de l'interview de Clonie Trion. Mais je voulais dire que la partie qui suit me semblait particulièrement pertinente parce que, après cette partie théorique, elle rentre plus dans le pratique de comment les choses peuvent changer, avec un passage qui, moi, m'éclaire particulièrement sur comment ça se fait qu'on peut parler beaucoup, beaucoup de l'égalité homme-femme et puis que ça n'avance pas. Donc, un petit éclairage sur la militance et puis on écoutera une petite capsule de Marie et de Sweeties et Frikis qu'Alexandra a choisi.
C'est pour ça que un mouvement comme Vie Féminine est très important pour rappeler dans la rue, s'il le faut, par des pétitions, par des interpellations, que les lois ne suffisent pas et qu'il faut des réalisations concrètes.
Et là, je vois bien que vous avez marqué le genre et le développement durable. Vous avez dit que c'est politiquement correct. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu?
Mais c'est politiquement correct dans la mesure où c'est très important que ce soit écrit dans les textes de loi, dans les conventions internationales. Mais si ce n'est pas suivi de décisions pratiques au niveau concret qui touchent les gens dans la vie quotidienne, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça. Ce que je dis que c'est politiquement correct, c'est qu'il faut se méfier des beaux mots et du beau langage. C'est important que ça existe, mais il faut que ça se transcrive concrètement sur le terrain. Et là, c'est un acte plus militant. Pour moi, le genre et le développement durable, c'est des outils de gestion politique. Mais concrètement, il faut aussi de la militance pour que ça passe dans le concret.
Est-ce que je peux vous demander de donner une petite définition sur le genre?
Alors, le genre, c'est être attentif aux décisions politiques qui sont prises pour voir les effets que ça peut avoir sur les femmes et sur les hommes, pour faire en sorte que quand on décide quelque chose, ce ne soit pas discriminatoire ni pour les hommes ni pour les femmes. Par exemple, les pensions, si on ne fait pas attention, une mesure qui a l'air généraliste va handicaper les femmes parce qu'elles auront pris des temps partiels, parce qu'elles se seront abstentées pour élever leurs enfants. Et donc, en fin de compte, quand elles auront l'âge de la pension, elles auront une très petite pension par rapport aux hommes. Parce qu'on n'a pas réfléchi au départ à l'impact que ça avait, la même mesure sur les hommes et sur les femmes. Donc c'est ça, le genre, c'est dans toutes les politiques, faire attention aux effets, aux conséquences par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour le développement durable, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences négatives pour les générations futures. Que tout ce que nous faisions, que tout ce que nous faisons comme acte de consommation, de déplacement, de politique industrielle, ne soit pas polluante et permette aux générations futures de continuer à vivre avec une vie de qualité ici sur Terre, mais aussi que pour les pays du Sud, il y ait la possibilité d'un développement. C'est pas, le développement durable ne signifie pas que les pays doivent rester au niveau de développement où ils sont maintenant, mais se développer en intégrant des technologies plus douces que celles que l'Europe et les États-Unis ont utilisées qui polluaient très fort. Donc le développement durable, c'est faire en sorte que on soit attentif à l'environnement, au social, donc à l'égalité, et aussi à un progrès économique pour tout le monde. Ben, par exemple, c'est faire en sorte que les nouveaux métiers qui sont liés au développement durable soient accessibles aux filles, que à toutes nos filles, nos cousines, nos sœurs, toutes celles qui sont encore aux études, il leur soit indiqué qu'il est possible de se former pour devenir, par exemple, apprendre à faire des isolations de maison, des économies d'énergie, de l'agriculture biologique, toute une série de nouveaux métiers, parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui vont être créés dans le développement durable. Et en fait, comme ce sont des métiers techniques et scientifiques principalement, la majorité des filles ne pensent pas que c'est pour elles, alors qu'elles sont tout à fait capables de faire ces études-là. Et donc, il faut les encourager à faire des études techniques et scientifiques qui leur permettront d'accéder à ces nouveaux emplois.
Pour moi, c'est une semaine qui se déroulait sur deux axes. D'abord, un axe d'information, en ce sens qu'on a été informé sur la situation du monde actuel par rapport à ce qui pose problème au niveau inégalité, inégalité au niveau de l'emploi, inégalité des femmes, inégalité au niveau du travail aussi, de la place de la femme dans la société. Et c'est aussi une semaine de brainstorming par rapport à toutes les participantes où elles devaient voir ce qui n'allait pas, les proposer, voir ce qui a été fait et voir les propositions qui sont encore possibles à faire et voir où sont les blocages. Donc en quelque sorte, c'est une marche vers l'avant qui a été assez positive, mais bon, il y a beaucoup à faire.
I am an instructor with Friskies and Svetis. I've been an instructor for 6 months. I'm the one in the center that leads the classes.
Donc, Nell est notre instructrice, une de nos instructrices. Et la particularité de nos cours aussi, c'est que l'instructrice ou l'instructeur est au milieu et que les participants se mettent en cercle. Donc comme ça, il n'y a pas de distinction, personne n'est sur le premier et sur le premier rang, les meilleurs sur le premier rang et les restants qui suivent. Donc tout le monde est égal et tout le monde voit bien l'instructeur à ce moment-là.
Pourquoi vous avez proposé cette activité et ou sinon, qu'est-ce que ça apporte?
Je pense que ça peut apporter un regain d'estime de soi parce qu'on fait travailler le corps et oui, on apprend à mieux se connaître aussi. On apprend à dépasser peut-être un peu ses limites. Hein. On se dit, mon Dieu, je ne vais pas y arriver, mais tout compte fait, on y arrive. C'est libérateur aussi. On bouge, on fait des mouvements. Donc je trouve aussi vraiment regain d'estime de soi.
Quel message pourriez-vous donner pour les femmes?
Ben, quel que soit votre âge, votre corpulence, n'importe, bougez, faites à votre rythme, mais n'ayez pas peur, parce que ça, c'est une première crainte, on n'ose pas, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, ça a peu d'importance, tout le monde bouge à son propre rythme, on porte les vêtements qu'on veut, à l'aise, il n'y a pas de concurrence, pas du tout. Donc, n'ayez pas peur, pas de problème,
c'est
pour tout le monde.
Oui, c'est pour tout le monde.
La semaine d'études pour vie féminine, ça me réveille. J'ai appris les droits et les devoirs.
C'est tout. On attendait beaucoup de choses pour changer le monde. On attendait beaucoup de choses pour les femmes. Oui, j'aime bien beaucoup parce qu'on attendait des choses qui changent les idées. Pour les enfants, pour les femmes, pour tout. Droit des femmes. Il y a des femmes maltraitées, il y a des enfants. Très important. 3 jours.
Pour moi, c'est un moment de se sentir faire partie d'un mouvement en marche et de puiser l'énergie et puiser les informations, se partager des expériences et qui nous poussent à continuer et à être plus dans la lutte.
Oui, donc on vient d'entendre Zanoura, Irna et Julie qui expliquaient un petit peu leur impression sur la semaine d'études. Mais j'ai envie de te demander, Alexandra, que tu reviennes sur ce choix de Sweeties et Friskies. Pourquoi tu nous le présentes ?
Merci Hélène. Donc, moi je trouvais amusant de cette activité de Friskies and Sweeties, qui est un mouvement qui vient de Suède et qui organise des séances de gym en plein air. En fait, un peu comme les animatrices qu'on a entendues l'ont dit, c'était mettre l'accent sur le corps et c'était un moment ludique aussi. Et dans la semaine d'études, je trouvais ça pas mal que il y a un moment où l'accent soit mis sur le corps, parce que pour moi, lorsqu'on se sent femme, c'est important de se sentir en lien avec son corps et de se sentir bien dans son corps de femme. Et donc des exercices comme ça, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que pour certaines, ça peut être vraiment un moment de prendre durant lequel prendre soin de soi, de son corps.
Alors toi, Tamara, tu as choisi une capsule qui nous parle de la barbe.
Oui, la barbe, c'est très intéressant que ça suive Sweeties and Friskies et le commentaire d'Alexandra concernant le corps, puisque la barbe, c'est un attribut masculin du corps humain. Et c'est aussi un groupe d'action féministe parisien, en l'occurrence, il vient pas de Suède. Et ce qui est assez intéressant, comme pour Sweeties and Friskies, les femmes, elles osent se transfigurer, et puis surtout, elles sont actrices d'une action publique dont elles parlent assez bien, puisqu'on va entendre l'interview qui suivra. Et donc, ce qui était chouette dans la semaine d'études, c'est qu'il y avait vraiment une diversité de formes d'expression, de libération du corps, de libération des idées, et aussi, surtout, se faire plaisir, s'amuser beaucoup. Parce qu'on a toujours un peu une image féministe pancarte, un peu rigide, étroite sur les bords. Et en fait, là, en l'occurrence, on a été assez servi de moments assez amusants, conviviales et la barbe, le groupe d'action féministe parisien, là, elles mettent un point d'honneur à s'éclater quand elles font des actions, à trouver les choses drôles et pas forcément à viser le grand soir ou des lendemains qui chantent, mais en tout cas de au temps présent de vivre bien l'action féministe. Et je pense que c'est un bon clin d'œil dont on peut s'inspirer.
Voilà, bon, on va les écouter.
Voulez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Marie Tsenival, je suis membre de la Barbe.
Et Mathilde Cana, également membre de la Barbe.
La Barbe, c'est quoi ? Ou comment et pourquoi ?
La Barbe, c'est un groupe d'action féministe qui est né en mars de cette année et qui veut déstabiliser les milieux du pouvoir en France. Des femmes s'y introduisent barbues pour rendre visible et ridicule l'absence des femmes dans ces lieux de pouvoir, que ce soit dans le secteur de la politique, des médias, de l'art, de la culture, etc.
Alors, vous présentez des films sur Internet. C'est en couleur sépia avec des cartons. Pourquoi vous utilisez ces images-là qui sont un peu désuètes de films muets ?
Ah oui, en fait parce que on a ces barbes, et ces barbes, elles font un petit peu penser à la figure tutélaire du monsieur dirigeant style 19e siècle avec sa grande barbe. Et on voudrait aussi montrer que pour nous, on aimerait que ça devienne démodé. Ces situations où il n'y a que des hommes au pouvoir. Je dis on aimerait parce qu'en même temps, on ne se fait pas d'illusions. C'est pas vraiment démodé, puisque dans 90% des pays du monde, enfin même 99 ou 100%, c'est tout à fait la situation. Donc on essaye de convaincre les gens que ça serait bien que ça devienne démodé. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette espèce d'esthétique film muet début du 19e, enfin début du 20e plutôt.
Vous filmez les actions, quel est l'intérêt pour vous de produire un film ?
Moi je vois trois intérêts. Il y a celui qui est le plus évident, c'est que ça permet de d'avoir une visibilité sur l'extérieur, quoi. Les gens peuvent regarder le film, voir comment ça se passe, trouver que c'est drôle, avoir envie de participer, etc. Mais ça a aussi un intérêt pendant l'action, parce que le fait qu'il y ait une personne qui filme, ça, disons, ça participe, si vous voulez, les gens en fait sont un petit peu sidérés par notre arrivée barbue. Il faut dire que c'est une vision un peu étrange. Et donc le fait d'être filmé, ça les sidère encore plus. C'est-à-dire, je pense que ça les empêche de réagir négativement s'ils en avaient eu envie, parce que attention, vous êtes filmé, quoi. Et puis il y a une troisième intérêt qui est pour nous après. L'action, parce que souvent les actions ont été un peu planifiées, mais ça se passe jamais exactement comme on avait pensé. Et donc on est un petit peu ballotté, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait un tel, regardez, on a l'impression que c'est un peu chaotique. Et en fait le film nous permet de re-regarder l'action après et d'y trouver l'unité, d'y voir un sens. Donc pour nous c'est très apaisant et ça donne envie de recommencer. Ça laisse pas sur une impression de désordre ou de chaos ou de ratage éventuellement, quoi. Voilà.
J'ai envie de rajouter une quatrième fonction à ces films. Enfin, non, il y en a même, on peut même en rajouter deux. Il y en a une quatrième qui est de ringardiser. Donc, c'est dans ces films-là, ça, on l'a déjà dit, hein, de ringardiser toute l'affaire, de donner ce côté passéiste à l'image de ces hommes qui veulent garder le pouvoir. Mais aussi, c'est des archives. Et l'histoire du féminisme, elle n'est jamais assez racontée, elle n'est jamais assez conservée. Et pouvoir dire ben on a été là, il y a eu des femmes qui ont fait ça, la passivité n'est pas obligatoire, il y a des mouvements, il y a des réactions, il y a des choses qui s'inscrivent dans l'histoire, il y a des gens qui ont été avant vous, il y en a qui seront après. Je pense que c'est vachement important pour les femmes qui sont toujours l'impression qu'elles recommencent tout à zéro, que le féminisme est sans cesse à réinventer. Et donc pour ça aussi, voilà, avoir des archives, savoir que ça s'est passé, c'est essentiel. Et j'espère que les générations futures pourront voir les films de la barbe et se dire « Mais qu'est-ce qu'elles étaient cons !» Elles n'avaient vraiment rien à faire, ma parole. C'est pas vrai, d'ailleurs. On est des femmes super actives, on a un boulot monstre. On fait des heures sup pour la barbe.
Vous travaillez sur un apparat, sur un petit décorum que vous avez, vos barbes. Finalement, vous ne vous attaquez pas proprement au pouvoir, mais vous, qu'est-ce que vous demandez en filigrane de tout ça ?
Ouais, on demande le droit au pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas obligé que vous ayez envie d'en avoir, mais si vous avez envie d'en avoir, pourquoi vous n'auriez pas le droit, comme d'autres, d'en avoir ? Il se trouve que si vous êtes une femme, ben, ça va être très 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 difficile, si vous en avez envie, d'arriver là-haut. Du coup, vous n'en aurez plus envie, d'ailleurs. Puis du coup, bah, vous allez vous retrouver tout en bas de l'échelle sociale, parce que soit vous n'aurez pas eu le choix, soit vous n'aurez même pas eu envie d'aller plus haut. Mais ça sera ça votre condition, et ça c'est un petit peu inacceptable. Donc nous, voilà, ce qu'on cherche, c'est à dénoncer la chose, pas forcément à proposer un autre monde, d'autres valeurs, des solutions à tout ça, mais juste dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Il n'y a que des hommes en haut et il y a souvent que des femmes en bas. Et ça, c'est délirant, c'est anti-moderne, c'est ringard, et ça fait souffrir. Alors, on ne dit pas que ça fait souffrir, hein. On dit, nous, on veut en être, tiens. D'ailleurs, regardez, on a fait un effort, on a tous les attributs de la masculinité, on les a mis à notre menton, et donc, sûrement, vous nous prendrez dans votre club. Mais derrière, c'est juste une pure dénonciation, quoi. Et puis, l'autre chose qu'on demande en filigrane, hein, c'est on demande aux femmes, cette fois-ci, d'arriver à se représenter dans des positions de pouvoir, se représenter, vouloir, aimer le pouvoir. Il n'y a pas forcément de la honte à ça. Et pas forcément être trop exigeante envers les unes envers les autres. Supporter de se voir dans un miroir, supporter d'élire une femme dans des élections présidentielles ou municipales. Et ne pas attendre la révolution totale avant d'exiger un droit simple qui consiste à avoir les mêmes opportunités que les mâles, quoi. Voilà.
Et pour le mot de la fin, ça fait quoi comme sensation de porter une barbe et de venir avec ce type d'action dans un paysage où le combat féministe est un petit peu, j'entendais, difficile.
De porter une barbe, alors d'abord c'est très très bien parce que ça permet de se cacher un peu. Quand on n'a pas envie d'être particulièrement sur le devant de la scène, on peut être là mais en même temps un petit peu caché par une espèce de fausse barbe en forme de serpillière. Enfin bref, elles sont pas extrêmement... c'est un petit peu exprès, elles sont très basiques nos barbes pour qu'on puisse tout de suite voir sans ambiguïté qu'il s'agit de fausse barbe. Ensuite, dans le paysage féministe, ben, je sais pas trop. Ce qui est sympathique, c'est que comme on prend les choses vraiment à la base, c'est-à-dire à l'indignation de base de l'exclusion des femmes des lieux de pouvoir, en gros tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que ce qui est un peu embêtant dans le féminisme actuel en France, c'est qu'il y a beaucoup de bisbilles sur des questions idéologiques qui sont pas sans importance, mais qui finissent par finalement cacher le fond vraiment solide de la discrimination en fait. Et donc nous on revient là-dessus et donc la plupart des gens sont d'accord avec nous et donc c'est plutôt sympathique. Ça offre disons une espèce de plateforme commune de base. Voilà.
Et vous vous amusez beaucoup?
Ah ouais, on se marre bien. Ouais. Non, il y a rien de tel. Les réunions de la barde, bon, on est barbus. Dans notre café, on se réunit dans un café qui s'appelle La Mer à Boire, ce qui est pas mal pour un groupe féministe. Et puis voilà, essayer d'avoir des idées pour la prochaine action sur la base de si on l'investissait barbu cet endroit-là, ça génère forcément des fous rires et des choses assez drôles. Et puis voilà, quand on se remémore les actions et quand on regarde nos petits films, on s'amuse, quoi. C'est franchement pas un groupe triste. Donc, comme dirait Mathilde, néanmoins fortement indigné. On n'est pas là pour faire la farce, hein. Ça rigole pas, hein, mais quand même, non, ça fait rire. Voilà. Ça fait rire, mais on espère que ça fait rire aux dépens de ceux que nous ciblons.
Voilà. D'accord que c'est le rassemblement des forces militantes de vie féminine, mais pour moi c'est plus ce que c'était. Je trouve que c'était plus constructif. Je venais parce que ça m'aidait à bien potasser tous les dossiers qu'on recevait après. Mmh. Bon, qui reflétaient, c'était le programme machin, programme santé, problème de l'argent, problème de... Bon. Et alors, on avait des dossiers de la nationale, et moi je venais en tant que personne, je trouvais que c'était très enrichissant. Et maintenant, on ne sait pas quoi.
Comme tous les années, d'enrichissant, c'est bien, ça, je m'informe. Je résous un peu les problèmes, je regarde comment c'est bien. C'est...
Moi, j'ai bien baladé, j'ai bien écouté tous les gens. Hein. Je me sens bien avec mes copines ici, c'est bien.
Monique Rosalie, et puis vous dire que vous êtes toujours en direct de Radio Panique dans l'émission Elles en parlent encore, qu'aujourd'hui nous partageons avec vous le plaisir d'être en semaine d'études. C'est des petites capsules sonores que nous avons prises à la semaine d'études de vie féminine 2008 avec comme thème En avant toutes. On a écouté La Barbe et maintenant nous allons entendre un petit extrait musical pour souffler avec Cantaloba. Et puis après, Alexandra vous présentera une capsule sonore de Miroir Vagabond. Voilà, bonne écoute.
Yes.
Oui, rebonjour. Donc nous venons d'entendre encore un très joli chant de Cantaloba qui était présent donc lors de la semaine d'études 2008. Alors comme l'a dit Hélène juste avant, je vais vous présenter l'interview qui va suivre de Miroir Vagabond. Alors Miroir Vagabond, c'est une ASBL wallonne qui vise en fait le développement des populations locales par le biais de formations et d'ateliers de création, comme des ateliers d'expression, de peinture, sculpture, voilà. Et donc, qui a proposé lors de la semaine d'études 2008 un atelier collectif de peinture. Donc, voilà, c'est très intéressant et c'était, je trouve, vraiment aussi un moment particulier. Et je vous propose de l'écouter, de se retrouver après.
Pourriez-vous vous présenter ?
Donc Daniel Serret, donc je suis artiste peintre et animateur au Miroir Vagabond.
Alors qu'est-ce que Miroir Vagabond ? Qu'est-ce que vous avez fait ce soir ?
Alors c'est d'abord le Miroir Vagabond, c'est une association qui fait l'éducation permanente du travail social et en même temps socioculturel. Et chaque fois qu'on fait une action, il y a de l'art dedans. Voilà, pour faire court. Le principe, c'est une peinture spontanée, mais toujours faite en groupe. C'est-à-dire que les gens tournent autour de la table, mettent de la couleur ensemble, chacun choisit sa couleur, donc il y a une grande liberté, mais à la fois c'est très cadré. Et comme il n'y a aucun enjeu, la peinture est belle et ça aide à constituer un groupe. Mais c'est aussi significatif du fonctionnement du groupe. Alors la deuxième chose qu'on a faite, c'est un grand personnage. Donc ici on a fait des femmes évidemment, avec des consignes simples aussi. Et ces femmes, normalement, quand elles sont peintes, elles servent à inventer un scénario ou un contenu, c'est-à-dire qu'on met les personnages en relation. Alors pourquoi ils sont dans telle couleur veut dire quoi. Et si entre les personnages on remet les peintures abstraites qu'on a fait avant, on a le vécu du personnage, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit en lui-même ou avec les autres à côté. Donc on arrive à une relation, à la représentation involontaire, inconsciente d'une relation sociale. Et à partir de là, si on continue, on fait une exposition, on fait une peinture murale, mais on fait de la peinture, alors, de la vraie, avec tous les problèmes que ça pose.
Quand vous dites problème, ça veut dire que vous parliez de groupes dynamiques, de groupes possessifs, lents, rapides. Est-ce que c'est ça les problèmes ou...
Alors il y a le problème évidemment que la peinture permet, de manière moins dure que le verbal ou que la réunion, on est tous autour d'une table, de poser les problèmes de groupe relationnels à l'intérieur du groupe et la constitution du groupe et le projet qu'il se donne. Et donc il y a une part très naturelle qui se met en place et les questions de relations se posent dans la peinture. Donc parfois, mais je n'ai pas fait ici, mais avec des jeunes, j'ai parfois un représente sa couleur et puis l'autre couleur se met dessus, puis l'autre aussi, à la fin il étouffe en dessous et on a la vie du groupe et qu'est-ce qu'on fait avec. Mais plutôt que de faire de la réflexion, on fait de la peinture. Donc si on a vraiment quelqu'un qui est difficile, qui prend la place des autres, à quelle place est-ce qu'on va le mettre? Mais à quelle place est-ce qu'on va mettre sa couleur et son pinceau? Et donc à un moment donné, tout ça gère. Enfin, il faut un petit temps, hein, ça se fait pas sur deux heures comme aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, vous avez donné une action assez rapide, avec des consignes assez simples. Est-ce que c'est le modus operandi?
Ça, c'est de toute façon, au départ, les consignes sont toujours simples. Et elles permettent en fait ces exercices standards, mais qui permettent à chaque individu ou chaque groupe d'exprimer ce qu'il a envie. Donc comme c'est simple, ça sort juste, voilà. Et ça sort bien, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc une fois qu'on va commencer à réfléchir, ça devient plus difficile d'abord d'être tous d'accord sur ce qu'on peint, et deuxièmement de ne plus avoir peur de faire des erreurs. Tandis qu'ici, ça sort, donc c'est bon.
Alors aujourd'hui, avec les personnages et leur histoire en fond ou en dessous ou en deçà.
Donc on a vu des choses, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui respectent la consigne et des groupes qui ne respectent pas les consignes. Alors, du coup, c'est à la fois intéressant parce qu'on peut montrer qu'au niveau artistique, si des gens sont plus forts que les autres, ou quoi, ils vont faire quelque chose d'original. Mais quand on va remettre toutes les peintures ensemble, comme ils seront originaux, ils seront dehors et les autres seront mis moins en valeur, sont dépréciés. Or, quand on fait ça, on croit qu'on s'exprime, qu'on se libère, et en faisant ça, on écrase les autres. Donc c'est toujours intéressant dans les mouvements d'éducation permanente de faire comprendre que sans le vouloir, quand on s'exprime de trop, on écrase les autres. Mais même si c'est beau. Et donc, est-ce qu'on invente des règles ou est-ce qu'on les transgresse? Alors si on les transgresse, on ne respecte plus les règles. Alors si on a mis des règles en place, évidemment ici c'est moi qui donne les règles, donc c'est normal aussi qu'on fusse les règles que l'on donne. Donc, mais il y a toujours dans un groupe quelqu'un qui assume le non-respect de la règle pour l'ensemble du groupe. Et donc, on a la dynamique du groupe qui est là.
Le travail que vous opérez avec ces activités-là, animation, création, est-elle discutée ensuite en aval du processus ou comment ça se passe? Est-ce que...
Alors, en fait, c'est pas tellement discuter de la peinture, en fait, mais si les gens veulent en parler, alors on peut en parler. Et donc là, je peux aussi resituer dans l'histoire de l'art, les influences, etc. Donc ce travail-là peut se faire, mais il se fait après. Donc, s'il y a une demande. Mais en général, l'œuvre est présentée et on produit un choc, je veux dire, symbolique, ou affectif, ou émotif. Et pour nous, ça suffit. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour. Par exemple, ce qui est arrivé avec un groupe de jeunes, on a terminé par une peinture murale. Et puis tout d'un coup, je sais pas, moi je suis parti, puis je suis revenu, j'avais quelque chose à faire. Je suis parti 2 heures. Quand je suis revenu, ils avaient été reprendre toutes les peintures de l'atelier d'un an. Ils les avaient mis par terre. Donc ils avaient fait l'exposition eux-mêmes. Et donc eux-mêmes ont refait le processus. Donc ça vaut beaucoup de discours, je veux dire. Mmh. Mais alors, ce qui arrive aussi, c'est qu'on doit se justifier. Si on fait une peinture dans une cour d'école, que tout le monde est d'accord au départ, et qu'à la fin, la direction ne veut plus qu'elle s'y trouve, ça fait un objet de discussion entre les partenaires. Alors parfois, l'œuvre doit être rabotée, auto-censurée ou quoi, mais c'est le groupe qui décide. Ou elle est abandonnée, ou alors on accepte la négociation. Donc le fait de faire des peintures murales, par exemple, quelque part, ça pose toutes les questions à qui appartient la ville, le mur. Alors c'est l'image de qui? Des jeunes qui s'expriment dessus, du propriétaire, des gens qui passent, est-ce qu'on a le droit? Et ce débat-là est plus intéressant que l'explication de la peinture.
Oui, alors Alexandra, on vient d'entendre Miroir Vagabond. Pourquoi ce choix?
Oui, Hélène. Eh bien, en fait, moi, j'ai trouvé très intéressant la rencontre entre finalement deux mouvements d'éducation permanente, donc Miroir Vagabond et toute sa dimension artistique et vie féminine et toutes ses revendications. Et donc, c'est tout à fait compatible pour moi. Au-delà, le public auquel s'adresse Miroir Vagabond est un public d'adultes, de jeunes, mais aussi donc du milieu rural, mais aussi avec une attention portée plus particulièrement aux populations fragilisées, dont les femmes. Et je trouve qu'évidemment, ça rejoint tout à fait le travail sur le terrain de vie féminine. Et pour moi, c'est une rencontre qui est vraiment, je trouve, porteuse de fruits. Et d'ailleurs, j'étais vraiment contente d'apprendre que Miroir Vagabond serait partie prenante de la semaine d'études 2009. Et donc, voilà.
Ça va être la méthodologie qu'on va utiliser pour les ateliers. Et c'est vrai que moi, je m'en réjouis parce que je pense que ça va être à la fois très instructif et jouissif. Et toi, Mélissa, la semaine d'études de l'année passée, tu n'étais pas là. Cette année-ci, tu seras parmi nous. Quelles sont tes impressions quand tu entends toutes ces bandes sonores?
Ce qui me plaît beaucoup, c'est la solidarité que j'entends, que je perçois à travers leur voix et leur façon de parler. C'est que toutes ces femmes sont contentes d'être ensemble, en fait, et que ça fait vraiment du bien. C'est que ça nous fait du bien, voilà. Donc et que ça bouscule aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que on reste pas qu'on est dans une société où on est quand même vachement individualiste, c'est qu'on retrouve cette notion de oui, c'est encore possible de déjà de prendre conscience de certaines choses et de changer ensemble. Et donc ça réconforte et à la fois ça peut donner des pistes et des pistes concrètes pour les femmes qui ont fait des ateliers, etc. Il y a parfois des petits changements qui se font dans les familles si une femme se rend compte que voilà, elle a envie de sortir, en fait, elle a envie d'aller un petit peu en dehors de chez elle. Enfin, des petits changements qui sont importants et qui peuvent se passer grâce à ça. Donc, c'est ça que je trouve très chouette.
C'est vrai qu'aussi la semaine d'études, je pense que c'est aussi l'occasion de faire mouvement, de se rendre compte de toutes ces femmes qui sont là et de se sentir vraiment portée pour repartir vers les vacances d'abord. Et puis l'année de travail, c'est souvent vraiment le coup d'envoi d'une année de réflexion et de travail. Alors il nous reste deux capsules sonores. On va entendre Fabiana et puis peut-être encore un petit chant de Cantaloba. Et alors, une intervenante qui nous venait du Québec, voilà, qui va nous parler de la petite enfance.
Que c'est bien que les femmes pensent les autres femmes, que nous les femmes, on est important parce que je parle mal le français, je parle pas bien. La vie des femmes, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, donc c'est nous qui doivent le faire changer. Non, moi, je suis très contente que je suis là parmi les femmes.
Alors, c'est un lieu de rencontre entre les femmes du mouvement, un lieu d'échange, d'expression. On peut justement créer des nouveaux projets, essayer de trouver des nouvelles alternatives aux blocages qu'on rencontre sur le terrain.
Cantaloba, parce qu'on voudrait vraiment vous passer la capsule de Wallet et entendre ce que Rosalie nous disait sur la semaine d'études. À tout de suite.
Alors, pour commencer, qu'est-ce que sont le centre de la petite enfance? En quelques mots, et puis nous rentrerons dans le détail au fur et à mesure de notre interview.
Eh bien, le réseau des centres de la petite enfance au Québec est un réseau de services de garde éducatifs qui reçoit des enfants âgés entre 0 et 4 ans. Et ses particularités à ce réseau, c'est notamment d'être très axé sur la mission éducative auprès des jeunes enfants, de les soutenir dans leur développement et bien sûr de favoriser la conciliation famille-travail et de permettre aux femmes d'accéder largement au marché du travail tout en sachant leurs enfants dans des milieux éducatifs stimulants.
Vous avez aussi évoqué qu'il s'agissait d'un centre au Québec. Est-ce que ce système est répandu sur tout le pays?
Oui, les centres de la petite enfance sont présents sur tout le territoire québécois. Dans le réseau des centres de la petite enfance, il y a deux modes de garde, soit la garde en installation, qui, je pense ici, réfère davantage aux crèches, et le milieu familial, qui ici est appelé des accueillantes. Donc, c'est des femmes qui reçoivent les enfants dans leur domicile privé. Alors, au Québec, il y a 1500 installations centres de la petite enfance qui peuvent accueillir jusqu'à 80 enfants, et où ça peut être un peu moins, et sont situées partout sur le territoire du Québec. Il y a également 14 700 responsables de services de garde en milieu familial, également répartis sur l'ensemble du territoire. Et ce sont des centres de la petite enfance qui coordonnent, soutiennent et assurent la surveillance dans les services de garde en milieu familial et auprès de ces responsables. Bien, l'histoire du réseau des centres de la petite enfance remonte à très loin. Ça a commencé au début des années 70. Des groupes de femmes qui se sont mises à se mobiliser pour répondre aux besoins qu'il y avait dans leur communauté, le besoin qu'il y ait des milieux éducatifs pour recevoir leurs enfants, des milieux de qualité qui leur permettent, par ailleurs à elles, d'aller sur le marché du travail. Alors, c'est au fil de 30 années de bataille et au fil desquelles un réseau de garderies populaires s'est mis en place progressivement, des garderies qui fonctionnaient essentiellement grâce au travail parfois presque bénévole des femmes qui y travaillaient ou à des salaires assez bas à l'époque, et bien sûr la participation des parents aussi qui étaient bénévoles dans l'organisation du CPE, de la garderie c'est-à-dire, et qui participaient aux rénovations, etc. Et c'est vraiment issu du milieu des garderies populaires et du milieu des services de garde en milieu familial qui est né éventuellement le réseau des centres de la petite enfance qui est devenu une politique publique. Et bien sûr, en devenant une politique publique, que le gouvernement donc se mettait à financer le service, ça a été possible pour les éducatrices de faire aussi des revendications, mais qu'elles faisaient déjà avant, mais maintenant de faire des revendications pour leurs conditions de travail qui ont mené à une amélioration de leurs conditions salariales, mais aussi à l'équité salariale dernièrement.
Alors, j'ai entendu qu'il y avait tout un souci de par rapport à l'inégalité de revenus, de permettre à tout le monde de mettre son enfant dans une crèche. Alors, je me demandais, est-ce que le Québec est une terre d'accueil d'immigration? Et dans ces cas-là, comment ça se passe avec des populations qui auraient des codes ou des manières d'éduquer différentes? Est-ce que vous posez ces questions-là?
Mais en milieu urbain, par exemple à Montréal, où il y a une plus grande proportion d'immigrants, il y a des centres de la petite enfance qui sont, entre guillemets, spécialisés, donc qui reçoivent les enfants, mais on fait pas que recevoir les enfants, en fait, on reçoit les familles. Donc, c'est l'avantage d'un centre de la petite enfance, c'est la proximité des intervenants avec les parents. Les parents, non seulement sur les conseils d'administration, mais les parents... vont reconduire leur enfant le matin, retournent le chercher le soir. Donc, ils sont en mesure d'être en discussion et en échange constant avec le personnel éducateur. Donc, s'il y a des adaptations ou des compréhensions mutuelles sur lesquelles il faut discuter, bien, ça peut se faire. Et les CPE, qui reçoivent beaucoup d'enfants de communautés immigrantes, ont développé des façons, des approches pour les accueillir qui permettent justement de favoriser leur intégration et de les sortir de l'isolement. Et voilà. C'est un beau milieu d'intégration, en fait, les centres de la petite enfance, et pour les enfants et pour la famille.
Une semaine très, très, très réussie. C'est la femme qui se prépare et l'a droit. Elle veut, comme le thème ou la devise qu'on a vue, qui dit « la femme veut changer le monde ». Mais la femme veut changer le monde, c'est pas seulement pour la femme elle-même, mais c'est pour l'homme aussi. Le monde veut dire l'homme et la femme.
Alors, c'est maintenant le moment de se quitter, de vous souhaiter une bonne vacance au nom de toute l'équipe de l'émission Elles en parlent encore. Il y a Tamara la technique aujourd'hui, Mélissa, Alexandra, Virginie qu'on a entendu dans les capsules et Hélène, c'est moi. Et on vous invite toutes et tous à la semaine d'études de vie féminine cette année. Le thème sera Déraciner des ailes et ce sera des racines. Et des ailes. Ça parlera de l'identité des femmes et ce sera pour nous l'occasion d'une autre émission et on s'entend. Allez, on se prépare à vous ramener du son. Alors ça se passe à l'abbaye de Fleuref. Bonnes vacances.
Bonnes vacances, au revoir.
Au revoir.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.